Je vous donne rendez-vous demain à 14h, comme d'habitude. Nous parlerons du mot usure. Ce sera voilà, la nouvelle page de notre dictionnaire de l'économie qui s'ouvrira. Mais tout de suite, il est 15h sur France Culture. Place donc au Book Club avec exceptionnellement Zoé Sfez aux manettes. Bonjour Zoé.
Bonjour Aliette, merci beaucoup. Exceptionnellement, jusqu'à jeudi, restez avec nous sur France Culture. On va parler d'un livre et d'un regard. Une rencontre surprenante, mais absolument fondamentale.
Eh bien, très bonne émission Zoé. À demain.
À demain.
Bonjour le Book Club, bonjour à France Sultès. J'ai acheté ce livre immédiatement en sortant de l'Expo Beaubourg, je me suis régalée, donc j'ai découvert que Pierre Bourdieu était aussi photographe. C'est vraiment pour moi de la belle photo humaniste, et on sent une certaine douceur dans ses portraits, un immense respect.
France Culture, le Book Club, Zoé Sfez.
Des images en noir et blanc, un regard sur une Algérie en pleine mutation. Cette Algérie, c'est celle des années 50-60. Une femme en voile intégrale qui file en scooter sur une route. Des ouvriers qui travaillent à la chaîne dans les champs. Et une plume des mots précis qui font émerger une théorie complète et cohérente du monde social. Une plume qui va compter dans l'histoire de la sociologie au menu de votre Book Club aujourd'hui. Ce regard de photographe et ces mots de sociologue appartiennent au même homme, Pierre Bourdieu, et il se déploie dans un livre, Images d'Algérie, une affinité élective, récit en images de son expérience fondatrice en Algérie, expérience qui convertit un jeune philosophe en sociologue. On en parle aujourd'hui avec le sociologue Franz Schultes, fondateur aussi, cofondateur de la Fondation Pierre Bourdieu, qui a co-conçu ce livre, qui est une réédition et qui a aussi été à la manœuvre de la superbe exposition qu'on peut découvrir à Beaubourg. À 15h50, rendez-vous avec Nicole Vulser pour sa chronique qui racontera les splendeurs et misères des livres de cuisine. Et en fin d'émission, comme chaque jour, on se quittera en musique avec le grand jeu des pages musicales. Bonjour Franz Schultes.
Bonjour, merci bien de l'invitation.
Mais c'est nous qui sommes ravis de vous accueillir dans ce Book Club. Alors on est d'autant plus ravis que moi-même je suis une nouvelle membre de ce club. J'en suis l'hôtesse le temps que Marie Richeux, qui est un peu souffrante et qu'on embrasse beaucoup, nous revienne. Franz Schultes, vous êtes sociologue, vous êtes président de la Fondation Pierre Bourdieu. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Zeppelin, c'est en Allemagne. Vous avez travaillé beaucoup sur la production artistique, le marché de l'art et sa mondialisation. Mais vous êtes ici parce que dans les années 80, vous avez travaillé au Centre de sociologie européenne à Paris et vous avez fait la rencontre de Pierre Bourdieu. Vous avez ensuite cofondé en 2005, après sa disparition, cette fondation éponyme qui a vocation notamment à contribuer à diffuser sa sociologie en Allemagne. C'est vous qui avez co-conçu, qui préfacé et qui aussi dialogué avec Pierre Bourdieu dans ce livre. Cette rencontre, elle est fondamentale dans votre vie. Alors ici, dans le Book Club, on a pour coutume de commencer par un questionnaire qui questionne un peu votre rapport à la langue, à la lecture, à l'écriture. Et ce dialogue avec Pierre Bourdieu, que vous continuez depuis un bon bout de temps maintenant, nous donne envie de nous poser la question, à quel moment vous, à quel moment dans votre vie, vous avez rencontré Pierre Bourdieu? Sans doute, on peut se douter, par l'écriture? Par la lecture?
Après la lecture, après avoir pas mal utilisé Pierre Bourdieu dans les cours, je l'ai rencontré en 86, par hasard. On s'est très bien entendu tout de suite, il était très généreux. J'étais malheureux à l'université en Allemagne. Il m'a dit, mais venez donc un peu ici. J'ai dit, mais comment je ferai ça? Il a dit, mais il y a des bourses, descendez un étage et renseignez-vous. Et le même jour, j'avais une bourse pour venir. Je suis resté une année à la Maison des sciences de l'homme. Et j'étais donc chercheur associé au Centre de sociologie européenne. C'était parfait. Et c'est devenu durable. Je suis resté donc chercheur associé jusqu'à la mort de Pierre Bourdieu.
Alors attendez, là on a fait comme si c'était absolument évident que vous l'ayez rencontré comme ça par la lecture. Oui. Vous l'avez lu en français ou vous l'avez lu en allemand quand vous
l'avez découvert ? J'ai lu en français.
En français.
Je suis allemand, j'habite la Suisse, mais je connais la France parce que j'ai fait une partie de mes études en France. J'ai fait une licence en sociologie à Nancy et donc je connais un peu la sociologie française.
Et alors, est-ce que vous avez un souvenir de la première fois que vous lisez du Bourdieu? Parce qu'en plus, on va y revenir, mais la langue de Bourdieu, elle est célèbre en France pour être à la fois fascinante et puis laborieuse, même pour des Français parfois. Quel est le souvenir que vous avez, vous rappelez de ce que vous avez lu ou découvert en premier et de ce que ça a produit?
C'est La Distinction. C'est le livre qui a eu le plus de succès, qui a été traduit en Allemagne, en allemand 2 ans après sa parution en France. J'ai utilisé ce livre dans un cours. Les étudiants étaient horrifiés. Le style ne passait pas. La traduction en allemand rendait encore plus compliquées les choses. Et il fallait beaucoup bosser pour faire passer le message. Mais ça valait la peine. Et après, il y avait plein d'autres écrits que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt. Et une fois que j'ai fait la connaissance, quelque chose s'est rajouté à l'impression que j'avais pas les livres. Le personnage de Bourdieu, qui était quand même très exceptionnel, il avait un charisme imposant. Et le contact avec lui m'a rendu encore plus transparent les messages qu'il envoyait.
Oui, c'est ça, parce que la transparence n'est pas évidente de prime abord quand on lit du Bourdieu.
Pas du tout. Pas du tout. Il le savait lui-même qu'il écrivait dans un style très compliqué. Il se justifiait en disant on ne peut pas parler simplement des choses compliquées. Mais ça ne justifie pas tout, parce qu'on peut faire des phrases plus courtes et on peut y arriver par d'autres voies.
Il disait que souvent il a été interviewé là-dessus. Bon, et si on a vécu cette expérience que j'ai moi-même vécue d'avoir 19 ans, 20 ans et de devoir analyser un texte de Bourdieu à la faculté, on peut souffrir. Il disait que c'était aussi une forme de souffrance pour lui, l'écriture. Ça avait l'air difficile.
Oui, c'était très difficile, effectivement. Quand il parlait, c'était nettement plus simple. Et si vous aviez pu suivre des cours au Collège de France, c'était sa pensée en mouvant. On pouvait suivre sa façon de réfléchir en parlant. Et là, c'était beaucoup plus simple de capter les significations.
Alors là, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup d'extraits d'œuvres différentes de Bourdieu qui vont accompagner ces clichés qui sont un peu la découverte. Et là, il se passe quelque chose de très particulier avec cet ouvrage. On va y revenir, c'est qu'on lit Bourdieu et on regarde ce que Bourdieu regarde avec lui. Donc il y a aussi une facilitation du langage. Dans ce livre, il y a un entretien que vous proposez, un entretien que vous avez avec Pierre Bourdieu avant sa disparition, au moment où il vous fait découvrir ces photos qu'il a prises en Algérie. On va revenir sur ça, mais vous avez un échange justement sur la littérature. On sait aussi qu'il y a très grandes archives de Bourdieu, où il y a notamment sa très très large bibliothèque. Oui. Alors vous citez, quand vous essayez de parler de ce que produisent l'impression de ces photos, vous citez Günter Grass, oui. Et lui vous parle d'Arno Schmidt. Quel était le lien justement, à quoi ça vous fait penser? Pourquoi vous avez cité Günter Grass quand vous avez découvert les photos de cet homme?
C'est venu un peu plus tard. On avait un rendez-vous avec Günter Grass, Pierre Bourdieu, Günter Grass, c'est Arte qui avait enregistré. Et ça passait dans les deux langues, dans les télévisions des deux côtés du Rhin. C'était une rencontre très, très spécifique. Günter Grass venait d'obtenir le prix Nobel. Et ça le rendait encore plus grand. Pierre Bourdieu était tout petit à côté. C'était une rencontre mémorable. Et Günter Grass laissait tomber pendant cette discussion que la sociologie ne faisait pas rire. Elle était très austère. Et après, en discutant avec Pierre Bourdieu, il me dit « Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, les gens ? Tout le monde me dit ça, que c'est très austère, qu'il y avait l'école de Chicago, il y a 50 ans avant, ils ont fait des photos et une sociologie visuelle, et on me reproche de pas le faire. » Mais ils me méconnaissent totalement, j'ai fait exactement cela il y a 40 ans. Et donc on a commencé à parler de ces photos, il a dit « Mais vous devriez une fois les regarder. » Et j'ai dit « Mais comment ça ?» Il dit « Je vais vous les montrer. » Il les a fait préparer. Ils étaient dans des cartons, à chaussures, à objets divers. Et il sortait ces photos. Il les a mis en ordre. Et après, une fois vu ces photos, j'étais convaincu, mais vraiment convaincu, qu'il fallait les publier, qu'il fallait les montrer au public, parce que c'était un peu la face cachée de Bourdieu.
C'est la face cachée de Bourdieu.
C'est un autre Bourdieu qui se montre affectueux, tendre, doux, empathique, proche des gens. Et je crois que c'est important de montrer cette autre façon de faire la sociologie à travers la photo. Et actuellement, donc au Centre Pompidou, on montre à la fois les photos qu'il a fait en 58 à 61 et les textes, les petits textes écrits à la main qui vont avec. Et pour rajouter cela, très important à retenir, les photos de Bourdieu ne sont pas des photos touristiques, ce ne sont pas des photos artistiques, esthétiques, ce sont des outils de travail. C'est un instrument, la photo, c'est un instrument, une méthode et un moyen de connaissance de faire la sociologie.
Ça, donc, on va y revenir, évidemment.
On découvre
un autre type de Bourdieu. Ça, c'est fascinant. Mais alors là, c'est quand même assez fou ce que vous nous dites. C'est-à-dire que c'est de la rencontre avec Günter Grass et de cette remarque que surgit sa volonté, en fait, de vous dire « Mais moi aussi, j'ai fait des choses qui ressemblent à ça.
Voilà. » Ça a déclenché.
Ça déclenche quelque chose. Oui. La littérature déclenche toujours des choses, même chez les sociologues. C'est fascinant. Dans cette évocation de Günter Grass et dans cet entretien qui préside, en fait, à cet ouvrage, vous lui demandez s'il a tenu un journal pendant ces années algériennes. Voilà. Et évidemment, c'est une question qu'on peut toujours se poser, on va en reparler, de cette expérience de ce tout jeune Bourdieu qui est prof de philo en Algérie. Et on se dit, presque, quand on voit ces photos, ça aurait été magnifique qu'il écrive, qu'il ait une autre écriture que l'écriture académique. La tentation de la littérature, il n'y a jamais eu chez lui. Elle n'a pas eu lieu.
Juste pour donner une indication plus précise, il a fait 3000 photos en tout, il faut s'imaginer ça, en temps de guerre. Et il les a traitées de façon très méticuleuse. C'était très cher à Bourdieu, ces photos. Et il me dit, dans les divers entretiens qu'on a eus, « Je n'ai pas eu le temps de tenir vraiment un cahier ethnographique. » Et c'est très dommage, un journal. Et... il a dit, mais je me souviens de tout. Quand je regarde les photos, chaque moment m'est encore présent. Et j'ai dit, on pourrait faire une sorte d'histoire orale, oral history. On prend les photos, on se met autour d'une table, vous regardez ces photos et vous racontez le contexte, comment vous êtes arrivé dans tel endroit, etc. Il a dit, oui, on va faire ça, c'est une bonne idée. Il est mort trop vite, trop jeune, et on n'a pas pu réaliser. Et donc, avec Christine Friesing-Helly de Camera Austria, qui était déjà partenaire de ce projet en tant que spécialiste de la photo, on a dû finir ce projet sans Pierre Bourdieu, mais on a essayé d'être le plus proche possible de l'esprit qu'il avait évoqué aussi en parlant des photos.
Ouais, il nous manquera toujours son oralité, sa parole à cet endroit-là et cette forme peut-être de littérature orale de Bourdieu qu'on n'aura jamais, mais il nous reste ces photos. Ouais. On va évidemment parler à la fois de ce livre, de ces photos plus en profondeur, mais juste avant, on va écouter l'une des voix les plus importantes en Algérie, en Kabylie, qui a bercé les oreilles des Algériens et aussi de ceux qui sont ici en France, j'ai nommé l'immense Idir.
رمزون دي غليم مدي بض مجرى الترى الشرق الغربي الطقير يذرموني زمير را يذرموني زمير را نكثر يضي يغردوح يا يمو ورط صغرى اشفي غثمو ثلطي ورزورين بفرارا ورزورين بفرارا نضي اسمي تلولا على ونور غبغينا رحم يسد فرحة ضميم قرا عذو غمز فسد في الحارة نضي اسمي تلولا على ونور غبغينا رحم يسد فرحة ضميم قرا عذو غمز فسد في الحارة وصديق في يمام أذفد ذار سذي مغبور يرثف غورث ياسير يا ونس عيث أجمات محقورة
France Culture, le Book Club, Zoé Sfez.
Ses concepts, sa sociologie sont sans doute parmi les plus prégnants. Les notions qu'il a développées font presque partie de notre vocabulaire, parfois d'ailleurs à tort, de celui des médias, les concepts de champ, d'habitus, de reproduction sociale, du capital symbolique. On s'en sert tous les jours. Mais dans ce livre, Images d'Algérie, une affinité élective, parue chez Actes Sud Simbad Camera Austria, on découvre un Pierre Bourdieu photographe. Passé par l'Algérie une première fois en 55 pour y faire son service militaire, il y retourne donc entre 58 et 61, il y enseigne la philosophie et là, en autodidacte, avec ses étudiants, il arpente un pays marqué bien sûr par le fait colonial, par la guerre, par le déracinement des paysans, par une immense pauvreté et se convertit, il utilise ce terme religieux, à la sociologie. Ce qu'on ne sait pas, et ce que même vous ne saviez pas, Franz Sultès, c'est qu'à l'époque, il est armé d'un petit appareil et qu'il va prendre plus de 2000 clichés. Ce geste de la photographie, comme une manifestation de la distance de l'observateur qui enregistre et qui n'oublie pas ce qu'il enregistre, convient en fait parfaitement à la théorie de la pratique qu'il est en train de développer, d'initier. Ces photos, en fait, c'est peut-être la pièce manquante pour comprendre cette conversion à la sociologie de Pierre Bourdieu. Pour comprendre Pierre Bourdieu tout court, une conversion, en fait, qui passe par le regard. Et pourtant, ces photos, il ne va pas les montrer avant un très long moment, puisque ce n'est qu'à la fin de sa vie, et il ne vivra pas pour voir l'exposition, que vous finirez par les montrer, vous, Franz Sultès, évidemment avec d'autres, dans une exposition que vous organisez à l'Institut du Monde Arabe, ça c'était de janvier à mars 2003, et qui réunissait à l'époque 150 clichés, et dont il y a eu un livre, première mouture de celui-ci, qui était le catalogue. Et en fait, en 2017, vous retrouvez de nouveaux clichés, de nouvelles épreuves qui vont donner lieu à une nouvelle sélection qui est présentée en ce moment dans une exposition assez géniale au Centre Pompidou à découvrir jusqu'au 10 mars et donc à une version rééditée de cet ouvrage co-conçu, donc on l'a dit avec Françoise Frisingeli. On va revenir sur sa structure, sur ce qu'on y trouve évidemment, mais vous l'avez dit, en fait, on connaît le travail de Bourdieu sur les médias, sur le musée, sur les images, sur la photographie. Vous deviez le connaître puisque vous travailliez avec lui à cette époque-là. Et en réalité, vous et d'ailleurs la plupart de ses lecteurs, de ses proches, est-ce que vous connaissiez l'existence de ces images ?
Oui, c'est tout à fait paradoxal parce qu'on aurait dû les connaître. C'est ses ouvrages, les textes d'Algérie, le déracinement, Algérie 60. Il y a des photos sur les couvertures. Mais il n'y a pas marqué « photo de Pierre Bourdieu ». Il a renoncé à cela. Il faut se demander pourquoi. Hein, Et dans un entretien, je crois même dans l'entretien qui est dans ce livre, on en a fait plein d'autres, il disait « on avait une drôle de culture au début avec l'équipe au Centre de sociologie européenne. On s'est interdit toute utilisation d'aspect esthétique. Hein, on voulait être loin de ceux qui prétendent être artistes. » Il dit, 40 ans après, je regrette cela. Je regrette parce qu'on s'est interdit des choses importantes. Et l'ouverture qu'il a prise par rapport à des formes plus aussi personnelles pour lui de s'exprimer en tant que sociologue, c'est venu de la misère du monde. Parce que dans ce livre, il a utilisé des démarches qualitatives, proches des gens, à l'écoute des gens. Et je crois que ça lui a donner aussi l'ouverture vers une autre voie de faire la sociologie, moins académique, moins théorique. Et la photo correspondait un peu à cette démarche qualitative. Et ça a rendu la chose plus facile de faire sortir ces photos des cartons.
Des cartons, alors ça c'est assez fou parce qu'effectivement il le dit dans cet entretien, ce passage en Algérie, alors on va y revenir, mais c'est un moment complètement fondamental dans sa vie en réalité.
Absolument.
totalement fondamental, que certains de ceux qui le lisent beaucoup et qui le vivent de manière très préoccupée par la société française, qui connaît beaucoup mieux et dont les livres les plus célèbres, La misère du monde en est un, mais La distinction, etc., concerne des champs en fait, auxquels il appartient. En réalité, ce moment, il est très fondateur, mais effectivement, il le dit, comme il va entrer en sociologie, il a l'obsession de l'académie, c'est-à-dire d'avoir la qualité de l'académie. J'ai envie qu'on l'écoute, Pierre Bourdieu, sur justement cette espèce de dualité et la manière dont il vivait ce qu'il était. Est-ce qu'il était sociologue? Est-ce qu'il était ethnologue? La question de la définition qui le hantait un peu, c'était dans les excellentes émissions Le Bon Plaisir sur France Culture, on était en 90.
Je me suis avoué que j'étais ethnologue très tard. Je pensais que je faisais de l'ethnologie provisoirement, puis j'allais revenir à la philosophie. Et je me suis avoué que j'étais sociologue très tard. C'est-à-dire que j'ai continué pendant toute l'époque où j'ai écrit Les Héritiers, par exemple. Pour moi, Les Héritiers, c'était un peu comme les travaux que j'ai fait sur l'Algérie, c'est des travaux de science militante. C'est-à-dire que je disais, bon, il faut que, en tant que chercheur, sur des problèmes très, très brûlants, je donne la vision scientifique. Bon, alors, il y avait ces étudiants, je les voyais mal adapté, je sentais bien qu'il y avait une nouvelle catégorie d'étudiants qui accédaient au système scolaire, etc. Bon, j'étudiais les systèmes de parenté, les systèmes rituels, le crapaud, la grenouille, on fait tourner cette fois dans le sens, etc. Bon, je faisais des choses tout à fait éloignées de ça. Et bon, les deux choses se sont baladées parallèlement pendant très longtemps, et je pense, au fond, ça a été un peu la chance de ma vie, c'est-à-dire que j'ai fait communiquer des univers théoriques qui ne communiquaient pas du tout. Parce que actuellement, au fond, au temps de Durkheim, on était à la fois la distinction sociologie-ethnologie n'existait pas. Au fond, des gens comme Mauss ou comme Durkheim se pensaient, leur œuvre passe de l'un à l'autre. Alors que, au fond, pour ma génération, ce sont deux univers complètement séparés. C'est pas la même formation, c'est pas les mêmes problèmes. De temps en temps, les sociologues font de l'anthropologie amusante, des analogies sauvages, ils parlent de rituels comme ça, sans réfléchir. Et de temps en temps, les anthropologues se mêlent de parler du monde d'aujourd'hui, en général de manière imprudente, etc. Bon. Et alors moi, il se trouve donc que comme j'ai eu cette sorte de double vie pendant très très longtemps, j'ai pu tirer parti au fond des limites de problématiques et beaucoup d'effets scientifiques, je crois, importants, sur la théorie des classes sociales, par exemple, sont venus du fait que je faisais passer dans un univers des problèmes qui étaient très forts dans l'autre.
Franz Schultes, qu'est-ce que ça vous évoque, cette prise de parole de Bourdieu? On avait très envie d'entendre sa voix, parce qu'il est avec nous, en fait, d'une certaine manière, et on parle de lui. Quand il parle justement de cette espèce de lui qui ne s'avoue pas ce qu'il est, et de cette communication des disciplines, en fait, il arrive à un moment où la sociologie émerge et se vit comme une discipline autonome, et donc il y a cette espèce de réticence, de pudeur, on s'empêche, on se raconte qu'on s'empêche d'aller faire autre chose.
Oui, ce que vous avez pris comme citation de Bourdieu, parlé par lui-même, reflète très bien une drôle d'entrée en sciences sociales par Bourdieu. Il était autodidacte, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a pas fait d'études de sociologie, ni de technologie, ni d'anthropologie, et il est philosophe, il part en Algérie avec sa thèse dans le sac à dos, il voulait faire une phénoménologie de la vie affective, des structures temporelles de la vie affective, et il n'a jamais terminé.
Ben oui.
Et une fois arrivé en Algérie, il dit « Je ne peux plus faire le philosophe. Il y a des choses tellement urgentes, tellement scandaleuses, et il faut que j'intervienne. Et ma manière d'intervenir, c'est avec les moyens de bord. Je suis intellectuel, je suis capable de faire un livre. » Et il fait ce livre déjà en 58, Sociologie de l'Algérie, il l'appelle. Et à partir de là, il commence à faire du terrain. Il utilise toute méthode disponible. Il est très inventif. Et sa grande qualité, c'est d'être non discipliné, dans le sens de l'académie. Il peut se permettre transgresser toutes les normes méthodologiques. Il peut combiner le quantitatif, le qualitatif. Toutes les séparations académiques habituelles, il les trouve artificielles et il ne se soumet pas. Et ça donne à ses départs en tant que chercheur une très grande originalité.
Alors, c'est passionnant que vous nous rappeliez ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe justement dans ces 3 années où il est philosophe, donc où il part avec des étudiants, parce que je rappelle qu'il ne parle pas arabe. Il y a notamment une personne qui va beaucoup l'aider, Abdelmalek Sayad, qui est une personnalité très forte et qui va lui servir à la fois d'interprète et puis qui va lui introduire un peu un endroit où en fait il est complètement perdu, parce que la société algérienne elle-même est bouleversée, violentée par des années de fait colonial et puis parce qu'on est dans ce moment très très particulier. Mmh. Et d'ailleurs, il ne cesse de le dire, absolument pas dans ses textes, mais dans les entretiens qu'il fournit avec vous, qu'il est absolument dépassé. Il est perdu dans cette espèce d'avalanche de réalité qui lui arrive en face.
Oui. Quand il raconte ces années-là, on voit qu'il était dans une effervescence permanente. Il travaillait 16-18 heures par jour. Et dans son équipe, une petite équipe d'étudiants, il y avait Sayad, qui effectivement était d'un côté son élève, et de l'autre côté, il était son informateur ethnographique, qui le guidait. Et c'est Sayad qui devenait en partie aussi son professeur de langue et professeur de coutume kabyle, etc.
Donc c'est inversion devenu... de rapport de domination.
Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Et Bourdieu, d'ailleurs, c'était assez bizarre comme idée, mais je trouve ça chouette. Il disait à Sayad, après tu viens avec moi dans mon pays, le Béarn, et on va faire des recherches sur les sauvages de chez moi, et c'est toi qui vas faire l'ethnologue. Donc c'est un couple, un duo, un tandem formidable et ils vont le rester jusqu'à la mort de Sayad.
Alors où est-ce qu'ils vont exactement dans ces 3 années? Qu'est-ce qu'ils font comme trajet? On va revenir sur ces photos, oui. Mais elles traversent beaucoup d'endroits. Il y a évidemment beaucoup de photographies des bidonvilles, de lieux où on a parqué des paysans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe en fait dans ces années-là en Algérie et quels trajets ils font, donc quelles photos ils prennent?
Il y a 2 terrains différents. Il y a d'un côté la démarche qu'il suit de l'INSEE. Il y avait un bureau de l'INSEE. Il a fait amitié avec des jeunes comme lui, il était jeune encore, chercheurs. Et c'était une complémentarité très intéressante. Les chercheurs de l'INSEE voulaient faire une recherche sur travail et travailleurs en Algérie. Bourdieu rajoutait le qualitatif, le théorique. Eux, ils avaient les chiffres, lui, il avait les lettres. Et c'était une complémentarité parfaite. Et ce groupe de chercheurs allait dans de différents endroits. Ils faisaient des analyses de budget de ménage, Bourdieu les suivait. Il a pris un sous-échantillon et il faisait du qualitatif pendant que les autres faisaient que du quantitatif. Et ça empêchait.
Pour rappeler à ceux qui ne le sauraient pas, donc le qualitatif, c'est quand on mène un entretien et qu'on a des réponses ouvertes, que le quantitatif.
Voilà, on fait parler personnes à qui on s'intéresse. On veut capter leur vision du monde, leur vision d'eux-mêmes. Et en les faisant parler, on a accès à cette réalité vécue. Tandis que le regard méta, à travers des masses de données statistiques, ne donne pas le même accès. Et donc les deux, les gens de l'INSEE offraient les analyses quantitatives, lui venait avec des observations très fines, et c'était parfait comme combinaison.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet appareil photographique? Parce que donc, vous découvrez tard qu'il a ses photos, on va revenir exactement sur sa méthode, etc. Quel appareil photo il a? Il vous en parle d'ailleurs.
C'est une Ecoflex, et c'était, comme il dit, le meilleur appareil qui existait à cette époque. Il est parti lui-même en Allemagne pour l'acheter, avec son premier salaire de prof, et... Donc, il voulait pas faire des petites photos touristiques, tout au contraire. C'était du sérieux, le meilleur matériel. Et avec cet appareil, il y avait une particularité qu'il faut rappeler. On a porté, l'appareil, on portait au niveau des nombrils. Ouais. Et on regardait
assez
par
bas.
Le haut.
Hein.
Ouais. Donc, l'objectif était vers le haut. Et ça lui permettait de prendre des photos sans être vu. Parce que le geste habituel, prendre une photo, on se fait remarquer tout de suite. Tandis que avait là, il pouvait se promener et prendre des photos, en partie des photos volées, comme on les appelle. Ça veut dire, il ne demandait pas « est-ce que j'ai le droit de vous photographier ?» Mais il a pris ces photos pour témoigner de la réalité sociale dans ce pays.
Alors, tous les jours, dans le Book Club, on prend une question d'un auditeur, d'une auditrice, et en l'occurrence aujourd'hui, c'est Aline qui a vu l'exposition, évidemment, au centre Georges Pompidou, qui a découvert ce Bourdieu photographe, qui a des choses à nous dire et des questions à vous poser.
Bonjour le Book Club, bonjour à France Schultes. J'ai acheté ce livre immédiatement sortant de l'Expo Beaubourg, je me suis régalée, donc j'ai découvert que Pierre Bourdieu était aussi photographe et même un grand photographe. Il y a bien sûr un aspect documentaire et témoignage essentiel dans ces images, comme par exemple les photos très éclairantes sur la façon dont on a parqué des milliers d'Algériens loin de leur habitat traditionnel. Mais en plus de ce qu'elle raconte, je trouve qu'il y a beaucoup de photos qui sont très belles d'un point de vue artistique. Celle, par exemple, où on voit une gamine assise par terre au milieu de nulle part, avant de découvrir en haut à droite de la photo la porte d'une de ses bâtisses, justement. Ou bien cette femme qui porte un baluchon sur le dos, qui est décentrée sur l'image, et du coup, on sent tout le poids de ce baluchon. Bourdieu a vraiment un instinct de cadrage, un regard ouvert, il n'est pas condescendant. Il est vraiment, je trouve, à hauteur des gens. Et on sent une certaine douceur dans ses portraits, un immense respect. C'est vraiment, pour moi, de la belle photo humaniste. Et en plus, accompagnée d'analyses très pertinentes et très instructives. Pendant que je visitais l'expo, il y avait un groupe de très jeunes étudiants assis par terre avec leur prof, d'une école ou d'une prépa d'art, je pense. Et c'était un des jeunes qui présentait aux autres l'expo. Et tout ce qu'il racontait était passionnant. J'aime bien cette idée que par la photo ou l'art en général, on attire des publics vers des domaines vers lesquels ils ne seraient pas attirés naturellement. Donc bravo et merci Monsieur Schultes pour cette expo remarquable. Deux questions. Est-ce qu'il existe des photos qui n'ont pas encore été montrées? Et est-ce que cette expo a des chances d'être diffusée plus largement en France? Merci pour vos réponses.
Merci beaucoup pour vos remarques sympathiques. Effectivement, on ne montre qu'un petit échantillon de photos dans cette exposition. On n'a pas compté une centaine sur 1400, sur 1400 tout qui existe encore. Au début, on avait trouvé en 22, 23, non, il me les a donnés finalement en 99, et on les a utilisés pour la première fois en 2003. On avait 750. Et il y a à peu près 7-8 ans, j'ai découvert dans les archives Bourdieu, à l'université Condorcet, encore 400 autres photos. Donc on arrive à peu près à 1200. Et les autres photos peuvent être visitées de façon digitale. Il y a des archives qui ont été digitalisées. Et on peut regarder toutes ces photos de cette façon.
De cette façon, sur quel endroit, sur quel site, celui de la Fondation ou celui d'ailleurs? On mettra le lien sur celui de la Fondation et on mettra le lien sur la page de l'émission.
Actuellement, donc, juste pour être clair, tout ce travail a été fait en coopération étroite avec Camera Austria. Christine Frisinghelli était la spécialiste de la photo. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Je suis sociologue et me connais un peu en ethnologie. Et c'était donc aussi un peu comme entre Sayat et Bourdieu, un tandem.
Ouais,
voilà,
un tandem.
Et ça marchait de façon formidable. Et maintenant, pour... La photo telle qu'elle existe ces jours, la version digitale est détenue, le copyright, par la Fondation, tandis que l'archive physique se trouve au Centre Pompidou et est gérée à la Bibliothèque Kandinsky.
Important de le relever, évidemment, parce qu'en plus, la conservation de la photo, c'est un enjeu à part, justement, dans les musées.
Absolument.
Il aurait été passionné par les évolutions du statut de la photo, Pierre Bourdieu. Mais justement, vous le dites, on est sociologue. Alors, ce qui est fou dans ce livre, vous allez nous dire ce que vous avez choisi de mettre, c'est qu'on découvre, donc là, je crois, effectivement, 900 photos, quelque chose comme ça, 100 photos, et adjointes à des textes de Bourdieu sur l'Algérie, différents textes, puisqu'en fait, ce travail sur l'Algérie, il a été... son travail de conversion, mais il a donné lieu à différents recueils, différents types de textes. Donc vous nous mettez des extraits. Ce qui est évidemment fou, c'est le dialogue entre ce texte, qui est parfois très aride, et on va lire, et ces photos. Alors le dispositif, vous le dites, il a cet appareil qui donc fonctionne au niveau du nombril, qui lui permet de prendre des photos sans être vu. Et Aline le disait, bon, ce qui est fou, c'est qu'il y a un rapport documentaire. Il prend les photos de ce qu'il voit, parce que ce qu'il voit à la fois le bouleverse, le terrorise, et parce qu'il sait aussi que le monde dont il est le témoin n'existera plus bientôt, en réalité. Et il y a aussi, évidemment, et c'est ça qui est bouleversant, c'est qu'on sent l'affect dans ces photos chez Bourdieu. Vous en parlez d'ailleurs, il prend des photos qui sont des photos qui ne sont pas nécessairement à vis des documentaires, mais de personnages qui le bouleversent, notamment peut-être une photo dont on peut essayer de la décrire, des photos de petites filles dont il nous dit avec ses tresses, elle pourrait être allemande.
Oui, oui, il en parle un peu.
Hein, il en parle un peu,
dit comme une petite madone de Dürer, ou je ne sais plus à quel peintre il a pensé. Effectivement, le choix, comme vous dites, entre texte et photo était absolument nécessaire pour nous, et aussi pour Bourdieu, pour éviter d'être mal compris et qu'on dise « Bourdieu se prend pour un photographe artistique ». On a dit « Non, on va montrer à travers la présentation à la fois de l'expo et la présentation du livre que pour lui, c'était un instrument parmi d'autres ». Et la confrontation entre ces textes scientifiques avec les photos qui les accompagne, il les a fait au même moment où il fait la description des centres de regroupement. Il prend ses photos de l'architecture, des gens un peu déboussolés, de toute la misère qui est réunie dans ces camps. Et donc les deux vont ensemble. Et on ne voulait pas les déconnecter et on voulait en témoigner que c'était, j'ai utilisé le mot témoigner, et il parle lui-même de témoignage, il voulait témoigner de la situation là-bas. Et pour lui, c'était aussi pas seulement une action scientifique, mais aussi politique. Comme il disait dans l'entretien, je voulais montrer aux gens à la maison, en France, ce que ça veut dire colonialisme et ce que le colonialisme a fait avec ce peuple.
En fait, on voit que ça participe exactement à la même démarche. C'est-à-dire que cette conversion par le regard, c'est parce qu'il regarde la société algérienne qu'il a envie de produire un discours sociologique sur qu'est-ce que c'est une société colonisée, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait dans les espaces, qu'est-ce que ça fait dans la manière dont on se définit soi-même. Et en réalité, voir ce regard incarné dans les photos, c'est quelque chose à la fois très précieux et de complètement fou. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont il les répertoriait ? Parce que on l'a compris, en fait, au moment où il vous en parle, il en a perdu une partie dans des déménagements, ouais. Il ne sait plus où elles sont, en fait. Il n'a pas lui-même gardé. Mais pourtant, vous dites qu'il y a ces annotations. En fait, il était très méthodique dans la manière dont il les gardait, ces photos.
Oui. On était étonnés de l'entendre dire « Quand je les sors des caisses, ça m'arrive de temps en temps, je pleure presque, parce que ça me touche tellement. » Et de l'autre côté, de les laisser dans des cartons. Hein. Et cette contradiction, on a pu dénouer cette situation en le convainquant. J'ai beaucoup travaillé avec lui pour dire « Mais il faut les sortir, il faut pas se gêner. » Et alors il dit « Mais alors, amenez-les en Suisse, montrez-les d'abord là-bas. » J'étais à Neuchâtel, il y a un musée d'ethnographie, et il avait un peu peur de se... De se montrer avec ce côté caché jusqu'alors, ici à Paris.
En fait, il avait peur de montrer l'affect, c'est ça ?
Aussi.
Il avait peur de montrer l'émotion.
Aussi. Surtout d'abord, je ne veux pas être pris pour quelqu'un qui a la prétention d'être photographe artistique. Mais peut-être aussi ce côté quand même très affectif dont vous parlez, les photos d'enfants, les portraits, le portrait de famille.
Elles n'ont pas de valeur documentaire, celles-là, en fait.
Non.
En fait, c'est
non,
ça. C'est
non,
qu'il y a beaucoup non. de photos qui n'ont voilà. pas de valeur documentaire,
Absolument.
Qui, entre guillemets, n'apporteraient rien à sa démarche de sociologue, et voilà. qui pourtant sont là, oui. et qui sont d'une beauté qui nous trouble.
Oui. Absolument, oui. Et donc, on ne les cache pas. Ça veut dire qu'ils font partie de l'ensemble. Mais malgré tout, cette construction d'un dialogue systématique, montage entre texte choisi et photo allant avec, c'était important comme principe de composition.
Justement, on va lire un extrait du déracinement que vous juxtaposez justement à des photos. C'est très intéressant de voir la coexistence de cette langue bourdieusienne académique. Et on comprend très bien qu'en fait, cette démarche de photographe va de pair avec sa démarche sociologique, puisque l'un des grands thèmes de ses travaux sur l'Algérie, et notamment du déracinement, c'est la manière dont on modifie l'espace et dont l'espace social est modifié par le fait colonial. En premier lieu, L'intervention des autorités et le simple fait du contact entre des groupes différents par leur histoire récente et par leur degré d'acculturation déterminent une accélération du processus de changement culturel. L'action des responsables s'inspirait de l'intention implicite ou explicite de, entre guillemets, faire évoluer les populations algériennes vers des structures sociales et des attitudes de type occidental. À l'unité clanique ou familiale, à base généalogique, on entendait substituer l'unité villageoise, à base spatiale. À la famille étendue, composée de plusieurs générations vivant en indivision, le ménage au sens occidental. Ainsi, en nombre d'endroits, les regroupés ont été contraints de construire autant de maisons qu'il y avait de ménages. Certains ont dû bâtir la maison de tel ou tel de leurs parents émigrés. Parfois, il a fallu que l'émigré lui-même vînt s'acquitter de cette obligation. L'habitat séparé accentue et accélère l'affaiblissement des liens familiaux. Chaque famille a désormais sa propre marmite, son propre budget, de même qu'elle avait déjà le plus souvent sa propre terre. En outre, le rapprochement de groupes différents, l'émiettement des communautés, l'influence dissolvante de la situation de bidonville et la précarité des conditions d'habitat tendent à affaiblir les liens coutumiers et déterminent l'apparition de solidarité d'un nouveau type, fondé sur le voisinage et avant tout sur l'identité des conditions d'existence. Alors ça, quand on lit cet extrait du Déracinement et qu'on découvre ces photos, alors nous sommes à la radio, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que nos auditeurs ne peuvent qu'imaginer ces photos, mais j'ai peut-être envie que vous nous décriviez quelques-unes des photos que vous avez mises en regard de ce type de texte. En fait, on comprend que sa manière à Bourdieu de comprendre ce que l'organisation de l'espace fait aux populations vient de son regard. Et c'est ça qui est magique dans cette face cachée, c'est qu'on surprend son émotion, mais on surprend aussi son regard qui est en train de comprendre et qui est en train de formuler sa sociologie. En fait, on le voit à l'œuvre par le regard qu'il porte sur ces lieux.
Voilà, oui. Le titre d'un de ses livres, Le Déracinement, pourrait être pris comme paradigme pour la compréhension de sa démarche. Il va d'abord analyser la maison kabyle traditionnelle. Il en découvre une qui a été détruite par la force coloniale. Il montre à quel point cette construction contient toute une cosmologie. Chaque chose a sa place et chaque chose a une signification. Et il y a des liens de généalogie entre les différents groupes. Et le colonialisme détruit tout cela. On va concentrer cette population dans des camps, regroupements. On les mélange, on ne tient pas du tout compte de la généalogie, et on leur donne des tout petites maisonnettes. Les femmes se trouvent isolées dans ces petites maisons, parce qu'avant, elles avaient leur place où elles pouvaient aller, à des fontaines, etc. Donc, il y a une destruction systématique par le colonialisme d'une culture. Cette culture est à moitié coupée en deux, clivée, comme dit Bourdieu, la culture est clivée, et il parle d'un habitus clivé qui va de pair. Et ces gens, touchés par ce déplacement violent, perdent le Nord. Ils sont déboussolés, ils sont
déracinés. Ils sont en démission, d'ailleurs. Il utilise le terme de démission. Il y a une démission d'eux-mêmes.
Absolument, oui, oui. Et ils perdent aussi leur terre. Ils ne peuvent plus être paysans comme avant. Ils commencent à se vendre comme ouvriers agricoles pour faire survivre leur famille et tout. Ça veut dire qu'il y a, comme Bourdieu le dit, un clash de civilisations. Il y a vraiment deux civilisations incompatibles qui se rencontrent. L'esprit occidental, le capitalisme occidental, le travail salarial, tout ça n'existait pas. C'est pas une économie monétaire. Et donc, Bourdieu essaye de montrer les blessures profondes que cette culture prend. Et il dit que c'est irréparable. C'est ça un peu son pessimisme.
Il dit que c'est irréparable. Alors, ça s'incarne dans des photos qui sont souvent absolument folles. Donc, de messieurs arabes qui sont en costume et qui sont en train de faire du travail à la chaîne dans des champs, avec, oui, qui sont reliés par des tubes. Il y a ce choc à la fois de vraiment sur la même image, dans la coexistence du champ, oui, de grands panneaux modernistes à la française et de ces figures. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être une photo à vous qui, pour vous, qui dirait bien ça?
Effectivement, la photo, il y a toute une série de photos qui touchent ces ouvriers agricoles et qui, jusqu'alors, avaient leur petit champ autour de leur maison. Et c'était toute la famille qui travaillait collectivement là-dessus. Et tout à coup, on voit cet homme adulte enchaîné dans une sorte de machine humaine et qui marche au même trot pour mettre des phosphates sur dans les vignes.
Et en plus, il y a ce paradoxe que l'industrialisation de l'agriculture se fait encore plus vite en Algérie qu'en France. De manière encore plus violente, en fait.
La productivité, par exemple, des vignes est supérieure. Parce qu'il y a, on saute de 0 à 100 à l'heure. Ces populations étaient disponibles. C'était un prolétariat, sous-prolétariat, on pourrait dire. Une main-d'œuvre qui pouvait être achetée facilement. Et donc, la productivité, il va très, très vite. Pour les gens concernés, ce déracinement va de pair quand même avec la perte de toutes leurs valeurs traditionnelles de travail, qui étaient toujours organisées collectivement.
Alors, ce qui est fou, évidemment, dans ce corpus de photos et dans ce travail de Bourdieu, de ce jeune Bourdieu qui est parti philosophe et en fait qui revient sociologue d'Algérie, oui. C'est quand même ça qui s'est passé, c'est que, évidemment, quand il revient, et vous l'avez dit dans cette relation avec Abdelmalek Sayad, il y a tout de suite, évidemment, qui s'impose à lui et en fait qui, par ailleurs, sans doute, a peur dans son esprit, et il sait qu'il veut travailler dessus, par le truchement de cette expérience en Algérie, c'est-à-dire ses origines à lui, les paysans du Béarn, qui sont là, qui sont dans sa tête, et on sent qu'en fait, c'est par ce regard sur l'Algérie qui était un lieu d'une violence inouïe et auquel il ne comprenait rien, il le dit, il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas les termes des tribus dont on lui parle, les termes agricoles au début, il lui manque tous les codes, et en réalité, pour comprendre ce qui se joue, il pense à ces paysans béarnais, et c'est aussi grâce à l'Algérie qu'il va avoir envie de regarder la France. On écoute une archive de Pierre Bourdieu qui s'exprime à Berber Radio Télévision, c'était en 2001.
J'étais en Kabylie et quand j'interrogeais tout ça, bon, je me méfiais quand même de ce que me racontaient les vieux Kabyles, tout en les admirant beaucoup, parce que je savais que d'autres me disaient, tu sais, ils racontent ça, mais enfin, bon, quand même, quand on peut s'arranger, on s'arrange. Il y a la règle d'honneur et puis toute règle a sa porte. Ça existe, il ne faut pas oublier. alors je savais ça. Alors, quand ils me racontaient, je me disais, bon, si c'était un vieux paysan bernais qui me raconte ça, qu'est-ce que je croirais? J'en prendrais. J'en laisserai. Bon. Et alors je me suis dit, je me sers de ces paysans béarnais comme instrument pour contrôler les Kabyles, mais simplement il faut que je contrôle mon instrument. Et donc je vais aller faire une étude sur le Béarn. Et j'ai fait une étude à la même époque, et Sayad d'ailleurs était venu. Je travaillais avec Sayad sur le livre Le Déracinement. Le soir, on rédigeait, on travaillait, etc. Et dans la journée, on faisait des interviews dans le Béarn. Bon, et avec l'idée à la fois, bien sûr, d'étudier le Béarn, mais aussi d'étudier la comparaison entre les deux, et surtout aussi de m'étudier moi-même.
En fait, est-ce qu'il aurait pu devenir sociologue sans ce passage en Algérie, Pierre Bourdieu, selon vous ?
Non, je crois que c'était une expérience biographique qui a déclenché une métamorphose. Il parle lui-même d'une conversion biographique, vous l'avez cité, c'est une notion religieuse normalement, mais conversion biographique veut aussi dire, on peut, grâce à des événements spécifiques, être dérouté à un tel point qu'il faut se reconstruire. Et effectivement, dans cette situation en Algérie, il était confronté aussi à son propre inconscient, parce qu'il souffrait d'être béarnais, il souffrait de la langue, il avait honte de sa langue, il faut s'imaginer ça, peut-être même honte de sa famille. Et si maintenant, sous le sous-titre du livre, c'est une affinité élective, ça veut dire que Bourdieu pouvait s'identifier profondément avec ce qu'il a vécu en Algérie, cette façon d'être perdu. Il faisait donc au Béarn l'analyse du célibat forcé des paysans, les aînés, qui ne trouvaient plus de femmes parce que la modernité est rentrée dans le pays. Les femmes n'avaient plus envie de devenir des paysannes. Et il a vécu le déclin de toute une culture de sa région à lui. Et donc, c'était un parallélisme qui l'intéressait beaucoup.
Après cette expérience algérienne et ces 2000 clichés, est-ce qu'il a continué à faire de la photo ?
Très bonne question. Il m'a dit, j'ai arrêté parce que j'ai cassé l'Icoflex aux États-Unis lors d'un voyage. Et c'était une excuse bidon. Il aurait eu les moyens pour la racheter. Je pense que, en partie, c'est le fait de, au lieu de rester photographe, sociologue et faire une sociologie visuelle, il a fait une objectivation sociologique de la pratique photographique. Il a commencé avec la photo et les paysans, donc au Béarn. Il a fait des analyses, comment les paysans se soumettent à des règles très strictes, qu'est-ce qu'on peut montrer en photo et non, qu'est-ce qui est légitime et pas. Et après, il a fait cette grande recherche qui s'appelle un art moyen. Et peut-être on pourrait soupçonner, puisque lui-même il avait une pratique sociologique, qui se laissait alors classer à l'intérieur de...
Il s'est auto-classé dans sa propre
peut-être
analyse.
Peut-être ne voulait pas être objectivé lui-même.
Le risque extrême.
Mais il utilisait toujours la photo dans sa revue Actes de la Recherche et dans ses publications, il faut quand même souligner.
Bien sûr, mais pas en tant que photographe. Photographe, le Book Club continue et on passe tout de suite à la chronique.
France Culture, le Book Club, Zoé Spez.
Comme chaque mardi, c'est vous que l'on retrouve, Nicole Vulser. Bonjour Nicole.
Bonjour Zoé.
Vous nous parlez de l'économie du livre, mais là vous nous parlez d'autre chose.
Absolument. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de livre dont on ne parle pas assez souvent dans l'émission et qui pourtant suscite un engouement, le livre de cuisine. Et pour cette chronique, j'ai fait de la spéléologie dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé le livre de cuisine de Jules Gouffet, ancien officier de bouche du Jockey Club de Paris, qui a été publié en 1881 par la librairie Hachette et Compagnie. Un énorme pavé dans lequel on peut trouver, avis aux amateurs, quelques 28 différentes recettes de perdreau et en ces temps de fête, un indispensable menu de bal pour 7000 personnes. Là encore, les livres de cuisine restent incontournables dans l'édition. Le Covid, qui avait cloué tous les Français à la maison, leur avait donné envie de mitonner des petits plats et donc d'acheter des livres de cuisine en pagaille. En 2021, près de 7 millions d'exemplaires s'étaient ainsi écoulés et en chiffre d'affaires, le marché français avait atteint un cap de 121 millions d'euros. Depuis, le soufflet est retombé, les ventes se sont réduites en 2023, elles ont encore chuté au cours des 10 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier, selon l'Institut Nielsen IQJFK. Si l'on est optimiste et que l'on considère le verre à moitié plein, on peut dire que cela reste un résultat malgré tout meilleur qu'en 2019, avant le Covid.
Alors, quels sont les livres de cuisine qui se vendent le mieux, Nicole? Et est-ce qu'il y a de vrais triomphes en librairie de livres de cuisine?
Oui, absolument. Je prends deux exemples. Simplissime, la série des ouvrages signés par Jean-François Mallet reste sans doute le plus spectaculaire. Depuis 2015, ce chef a décliné une centaine d'ouvrages à la portée de tous, selon un concept invariable. Proposer une recette simple et rapide, utiliser au maximum 6 ingrédients, les prendre tous en photo sur la page de gauche et les montrer le résultat forcément alléchant sur la page de droite. Hachette, son éditeur, en a déjà vendu 6 millions d'exemplaires en France et à l'international. Et là, pour Noël, Jean-François Mallet sort un nouveau simplissime, les recettes au air fryer Ninja du nom de la marque de la friteuse sans huile avec qui l'éditeur a signé un partenariat. L'ouvrage est tiré à une bagatelle de 80 000 exemplaires. Dans un domaine très différent, celui des beaux livres de chef, Yotam Ottolenghi occupe une place tout à fait particulière. L'idole des bobos qui, grâce à lui, ont découvert l'usage du zaatar, des feuilles de kombava ou du galanga pelé, a vendu près d'un million d'exemplaires depuis 2013, date du lancement de son premier opus, Jérusalem. Et son tout dernier ouvrage, Comfort, sorti en septembre, réalise un très beau démarrage. En sachant que 40% de tous les livres de cuisine sont achetés entre fin octobre et fin décembre pour aller directement sous le sapin de Noël.
Alors, est-ce qu'il y a des modes, Nicole, dans ce secteur, dans ce créneau?
Absolument, Zoé. En cuisine comme ailleurs, la dictature des modes s'impose, d'autant plus que les éditeurs doivent se battre. La concurrence entre les livres et la télévision, et surtout les réseaux sociaux, s'exacerbe chaque jour davantage. De plus en plus d'amateurs de cuisine gardent des dizaines de recettes dans leur téléphone. Faire un livre en donnant juste des recettes ne suffit plus. Il faut faire appel à des personnalités. Les grands chefs, Jean-François Piège, Yannick Alénaud, Pierre Hermé, constituent bien évidemment des valeurs très sûres, mais les influenceuses comme Raphaël Lelon commencent à percer et les animateurs de télévision ou de radio, Laurent Mariotte ou François-Régis Gaudry, garantissent un niveau de vente très élevé.
Autre tendance forte, qui ne se démente pas, l'attrait pour les recettes qui permettent de manger sainement, ne pas manger trop gras, ni trop sucré, mais aussi les ouvrages qui font l'apologie des légumes, ou encore tous les livres permettant d'utiliser les robots pour cuisiner le plus vite possible. Dans un contexte d'inflation, les livres destinés aux plus fauchés s'arrachent comme des petits pains. L'Institut Nielsen IQJFK a analysé le marché de l'édition par le menu. Parmi les principaux segments, la cuisine au quotidien arrive très largement en tête, 44%, suivi par tout ce qui est sain et léger, et la cuisine du monde, 19% chacun. Et pour finir, c'est normal, les desserts.
Alors, est-ce qu'en matière de cuisine du monde, il y a aussi des modes qui s'imposent ?
Bien sûr, Zoé. C'est un moyen de voyager dans son assiette. Après l'engouement absolu pour l'Italie, les livres de recettes sur le Japon ont connu un petit succès. Et depuis peu, la cuisine dite levantine convainc de plus en plus d'adeptes. Même dans les livres de cuisine, on peut faire de la géopolitique. Dans l'espoir d'un rapide retour à la paix, le patron de Solar, une filiale d'Editis, vient de publier « Bethléem, 90 recettes familiales et traditionnelles de Palestine » de Fadi Katan, juste après avoir sorti « Chiche, la cuisine israélienne facile » de Jonathan Sasson-Cohen. Rien n'est gagné pour autant, des lignes de fracture subsistent puisque même les recettes de falafel diffèrent fortement selon ces deux chefs.
Merci beaucoup Nicole, j'en profite pour signaler que la semaine prochaine dans le Book Club, on visitera vendredi 27 décembre la bibliothèque du chef Thierry Marx et on parlera sans doute de livres de recettes avec lui. Votre chronique est à retrouver comme toujours sur l'appli de Radio France. En fin d'émission, comme chaque jour dans le Book Club, on joue à notre grand jeu des pages musicales. On va chercher des citations musicales dans les livres grâce aux suggestions que vous nous envoyez, auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, en écho avec cette découverte bourdieusienne de l'Algérie, c'est Bruno qui a déniché une belle page musicale dans le livre très personnel de Dorothée Myriam Kellou, un récit, un essai, Nancy Kabylie. Ça vous inspire fatalement. Franz Sultès, c'est paru chez Grasset en 2023. Je l'ai rencontré un 17 octobre, une date symbolique. Le 17 octobre 1961, des manifestants algériens qui protestaient à l'appel du FLN contre l'instauration du couvre-feu décrété par le préfet de police Maurice Papon ont été jetés dans la Seine, morts, assommés, certains encore vivants. Je rentre dans un café à deux pas du pont Saint-Michel où des femmes lancent des gerbes de fleurs dans le fleuve, en hommage. Un homme est attablé au bar. Il est algérien, exilé, fils d'un déplacé. Son village a été détruit par l'armée, son petit chien tué à bout portant devant ses yeux, sa montagne brûlée au napalm. Reda vient de découvrir l'histoire de son père. Il me la raconte, en touillant nerveusement son café. J'écoute son récit. Il approche sa main, me caresse le poignet. Je suis accrochée. Je veux sortir de l'imaginaire du camp, faire disparaître les barbelés. Il le désire aussi. Il approche ses lèvres, je ferme les yeux. Mon amoureux s'appelle Reda. La vie me bénit. Je me réveille au son de Cheb Hasni, le roi de la chanson sentimentale, sur fond de rythmique raï. Reda me traduit. El Baïda, mon amour, je te veux sans recourir au sortilège. El Baïda, c'est la blanche, la femme, l'amour, l'Europe et la cocaïne.
سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما بقيت فايدة
Cheb Hasni, j'imagine que et les livres de cuisine et ce texte vous inspirent, vous, sociologue Franz Sultès. Vous êtes l'auteur, vous avez co-conçu et ce livre, Images d'Algérie, une affinité élective, et l'exposition qu'on peut découvrir au centre Georges Pompidou jusqu'au 10 mars prochain avec Christine Frisingeli de Caméra Austria. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Book Club. Merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier Cyril Marchand, Oriane Mignot, Noé Margas, Alexandre Alabegovic et Mathilde Wagman, j'espère que je dis bien les noms. On se retrouve demain. C'était Colin Gruel à la réalisation et Ludovic Auger à la technique.
Question du soir, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h20, et c'est 1h30 d'analyse, de rencontres et de découvertes.
Quentin l'a fait.
Un débat d'abord, débat d'actualité avec des chercheurs et des experts, une discussion ensuite avec un invité qui vient parler de l'actualité de la recherche, de la pensée et des idées.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Sindbad, un marin de Bagdad, nous raconte les 7 voyages qui, tout au long de sa vie au 9e siècle, lui ont permis de s'enrichir et parcourir des terres inconnues.
Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures. Je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre.